Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Excusez-nous pour les retards avec lesquels nous commençons cette émission. Nous allons parler ce soir de l'épidémie de choléra qui s'est étendue, n'est-ce pas, à la ville de Kinshasa. En effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a enjoint le gouvernement de produire sans délai une planification des contingences de l'épidémie de choléra qui s'est accrue à Kinshasa. C'était lors de la 50e réunion du Conseil des ministres vendredi 4 juillet à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le président de la République a instruit certains ministères, notamment celui de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires sociales, à prendre sans délai les mesures suivantes: activation immédiate du plan des contingences en associant étroitement la division provinciale de la santé, et aussi les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks essentiels et des traitements mobiles dans les zones affectées. Depuis janvier 2025, près de 30 000 cas ont été recensés à travers le pays, avec 700 décès, dont une trentaine à Kinshasa, d'après le ministère de la Santé publique, Hygiène et Assainissement. Quelle lecture faire de la recrudescence du choléra en RDC? C'est l'objet du débat dès ce soir, et nous recevons ici au studio Dr Didier Gassigua. Il est directeur adjoint du programme d'élimination du choléra et autres maladies diarrhéiques. Il est également incident manager pour les choléra. Bonsoir Dr Didier Gassigua.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Jonas Tshombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Bonsoir Monsieur Jonas Tshombela.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio.
Et docteur Michel Mouroudi, expert en santé publique et spécialiste principal en santé à la Banque mondiale. Bonsoir docteur Michel Mouroudi.
Bonsoir monsieur Guy Maté. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, le choléra est désormais signalé dans 25 des 35 zones de santé de Kinshasa. Cette annonce a été faite par le président de la République dans sa note d'information lors de la 50e réunion du Conseil des ministres du 4 juillet 2025. Face à cette résurgence, Félix Antoine Tshisekedi instruit les gouvernements de prendre des mesures urgentes pour y faire face. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi, lu par le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans ses propos choisis par Jean Gandou.
L'activation immédiate du plan des contingences en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks des temps essentiels et de centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits des traitements d'eau dans les quartiers vulnérables. Le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre les rumeurs et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation.
Docteur Didier Gassigua, vous êtes directeur adjoint du programme d'élimination du choléra et autres maladies diarrhéiques. Vous êtes également incident manager pour le choléra. Quelle lecture vous faites du regain de cette maladie, d'abord à travers le pays?
Ok. Déjà dans le pays, le choléra a deux faciès, donc un faciès épidémique et un faciès endémique. Et donc les provinces de l'est de la RDC, autour du lac Kivu et autour du lac Tanganyika, sont endémiques au choléra. Et plus bien sûr la province d'Yolomami. Ça veut dire qu'il y a toujours des cas de choléra qui sont là, qui persistent malgré tout ce qu'on met en place.
Et donc on peut tout faire, mais la maladie elle est là.
Elle est là pour le moment. Bien sûr on peut l'éliminer, mais pour le moment elle est là. Donc elle sévit en forme endémique. Et donc, avec
ça, c'est Tanganyika.
Le Tanganyika, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Olomami. Donc ces provinces sont endémiques au choléra. Pourquoi d'abord je dis que même dans ces provinces endémiques on peut les éliminer? Parce qu'en Ituri c'était aussi une province endémique, mais actuellement elle est exempte du choléra. Et donc, de ces provinces endémiques, avec les mouvements des populations, avec l'insécurité, avec tout ce que vous savez qui est arrivé, et donc l'épidémie a commencé à migrer en suivant le fleuve Congo, et donc c'est comme ça que les provinces du Maniema et du Tanganyika ont été atteintes par le choléra, mais aussi parce que des personnes qui se déplacent viennent aussi à Kinshasa, aussi par avion ou par autre, qui sont des porteurs sains, mais qui ont trouvé à Kinshasa un biotope favorable à la propagation du choléra. Et donc il y a maintenant des provinces qui sont contaminées à partir de Kinshasa, mais toujours en suivant le fleuve, mais cette fois-ci en remontant le fleuve.
Et donc la particularité de ces différentes provinces, c'est le fait d'avoir connu à un certain moment des conflits armés interminables, n'est-ce pas?
Exactement. Donc ce sont ces mouvements de populations atteintes qui étaient là, et puis voilà. Et avec le déplacement des populations, et ça a fait que l'épidémie s'est déplacée. Et comme l'épidémie a trouvé un terrain favorable, donc voilà pourquoi il y a cette flambée actuelle que nous sommes sur, avec qui est maintenant actuellement en RDC.
Et la faciès épidémique.
Et donc la faciès épidémique, c'est des provinces qui d'habitude ne connaissent pas le choléra. Comme Kinshasa par exemple, ça fait des années, depuis je crois 2017, où il y a eu la toute dernière épidémie de choléra, et qui actuellement est en pleine épidémie. Et donc notamment aussi le Maniema, la Tchopo, et voilà, donc c'est des provinces qui d'habitude ne connaissent pas l'épidémie du choléra.
Alors, le fait que les cas ne font qu'augmenter tous les jours, est-ce que cela ne signifie pas que les stratégies mises en place par le ministère de la Santé notamment n'ont pas été efficaces?
Non, hein. En fait, l'épidémie, quand elle doit se répandre, ça veut dire qu'elle trouve un milieu favorable pour son expansion. Et le milieu favorable, c'est si vous n'avez pas... Enfin, c'est l'eau d'hygiène et l'assainissement. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'eau potable... Si il n'y a pas de l'hygiène là où vous vivez et le milieu n'est pas assaini, et soyez sûr que voilà, le choléra se propage très vite, et avec la promiscuité, avec le mouvement de population, avec les inondations qu'on venait d'ailleurs de connaître il n'y a pas très longtemps ici à Kinshasa. Tout ça, c'est les toilettes qui sont inondées, c'est des points d'eau qui sont inondés. Et comme vous savez, les habitudes ici à Kinshasa, c'est aussi la défécation à l'air libre, et c'est tout ça, les latrines ne sont pas correctement entretenues, et ça, c'est vraiment un milieu propice pour la propagation du choléra, au-delà des mesures, bien sûr, qu'on peut prendre.
Justement, depuis que cette épidémie a été déclarée officiellement au mois de mai par le ministère de la Santé publique, on savait très bien que la ville de Kinshasa réunissait, n'est-ce pas, toutes les conditions pour que de telles maladies puissent se manifester. Et pourquoi on n'a pas pris des précautions pour prévenir ce type d'éventualité?
En fait, Guy Maté, on sait qu'on doit faire en réalité, en cas d'une épidémie de choléra. Ça veut dire que, voilà, dès qu'il y a un cas, on doit investiguer le cas. Okay. On investigue les cas, on sait plus ou moins la source de contamination et on doit agir sur cette source de contamination. Et pour le cas de Kinshasa, c'est ce qui a été fait, et même le ministère de la Santé, après avoir déclaré l'épidémie du choléra, on a mis en place tout de suite ce qu'on appelle les systèmes de gestion de l'incident. Donc l'Institut National de Santé Publique avec le CUSP ont mis tout de suite en place ces systèmes de gestion de l'incident, et ce système doit en principe mettre un plan de riposte contre le choléra. Et donc le choléra, c'est comme à la guerre, donc il faut bien mettre le plan en place et mobiliser les ressources autour de ce plan-là. Et c'est ça, je crois, qui a failli pour qu'on n'arrive pas tout de suite à contenir le choléra qui débutait, et puis on regardait un peu, alors que les conditions étaient tout à fait réunies. On s'attendait à ce que ça flambe à un certain moment.
Et pourquoi le système a failli?
Mais la mobilisation des ressources. Parce que le plus grand problème, c'est d'abord la communication. On doit faire une communication des risques. On doit expliquer à la population, voilà, tant que vous faites telle ou telle action, vous êtes à risque du choléra. Et ça, c'est la première action à mettre en place. Donc déjà, le fait
sensibiliser la population.
Le fait déjà de déclarer le choléra, l'épidémie du choléra, c'est l'alerte. Ça veut dire que le ministre a dit à la population, faites attention. Et maintenant, ce qui doit suivre, c'est la communication tout de suite. Comment vous devez vous comporter? Toujours en termes, le mot-clé, c'est l'hygiène, l'eau et l'assainissement.
Ça n'a pas été fait.
Ça n'a pas suivi tout de suite parce que, bon, comme vous savez, c'est vrai qu'on a mis en place le plan de communication, mais il fallait mobiliser tout de suite les ressources, ok? Et ces ressources-là sont venues, comme vous savez, sur le plan global, il y a aménagement des ressources. Et voilà, donc tout n'a pas suivi le rythme et finalement, au jour d'aujourd'hui, nous courons un peu derrière le choléra, mais je crois qu'après la déclaration du 4 juillet ici, je crois qu'on peut maintenant aller un peu plus en avant avec, c'est comme un chef d'état-major qui vous pousse à aller un peu plus loin et je pense que les ressources vont plutôt être beaucoup plus disponibles qu'avant.
Merci Jonas Tchombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Comment vous avez réagi, n'est-ce pas, lorsque vous avez appris l'extension de cette l'épidémie de choléra à la ville de Kinshasa?
Merci pour la question, merci pour l'intervenant expert qui est au plateau. Mais je me pose la question, fallait-il attendre la cinquantième réunion du Conseil des ministres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du dégât? Alors que les signaux d'alerte ont été déjà lancés. J'ai l'impression que c'est l'échec même du système. Parce qu'on n'arrive pas à anticiper, nous en arrivons à des situations de catastrophe telles que nous en sommes aujourd'hui là. Il y a un déficit d'accès à l'eau potable dans des quartiers, des rivières sont... Il y a des déchets qui sont jetés, les toilettes à ciel ouvert, des égouts sont passés par là. Mais tout ça est connu. Le gouvernement ne doit pas toujours attendre des événements pour commencer à se précipiter et chercher comment résoudre cette question. Mais pourtant, la prévention serait le moyen plus efficace. Effectivement, le docteur, avec vous, venait de relever la communication. Ne me posez pas la question que vous l'achetez si vous avez fait quoi. Quand vous avez suivi le compte rendu du gouvernement, aucune analyse n'a été faite aux leaders de relais qui peuvent relayer le message. Pourtant, les dangers nous guettent. Donc, ils sont pris par le coup et maintenant, on s'en prend vaille que vaille. C'est ça le problème. Pour nous, le gouvernement n'a pas bien géré cette crise. C'était une crise qui est évitable, mais dont l'anticipation n'a pas été vraiment prise en charge à temps. Et là, nous sommes pris par l'événement. Il faut beaucoup travailler sur la communication, isoler les zones qui sont déjà attaquées et voir comment on peut mobiliser la population pour qu'ils arrivent quand même. C'est la maladie des pauvres et les victimes ne sont pas du côté de ceux qui sont riches. C'est des pauvres qui vivent dans des milieux très sales, insalubres, où vous n'avez qu'à aller au marché Gambela, vous verrez comment nos repas, les aliments sont vendus, disais-je, vendus à ciel ouvert, de mouches. Mais nous sommes exposés aux vies et sous des autorités. Donc, moi, je pense qu'une part importante de responsabilité revient aux autorités. Et pourquoi d'abord attendre la 50e réunion du gouvernement? Nous avons un ministère de la Santé. Il a tiré la sonnette d'alarme. Il ne pouvait pas s'arrêter à la sonnette d'alarme. Il devait avancer déjà. Bien sûr, des mesures timides ont été prises. Mais voilà, les résultats sont là. Nous sommes maintenant envahis par la maladie qu'on pouvait éviter, mais qu'on n'a pas pu anticiper à temps, prendre des mesures qu'il faut. J'ai l'impression que notre pays est toujours exposé à tel type de choses, des événements, sans anticiper, et nous subissons tout le temps.
Et donc, la situation était prévisible, vu, comme vous le dites, le fait qu'il n'y a pas eu d'anticipation, mais aussi vu l'environnement dans lequel vivent les populations de la ville de Kinshasa.
Bien sûr. Nous avons là une stratégie de gestion de cette question, toujours la gouvernance de l'urgence, pas de la prévention. Et c'est ce qu'on voit presque tout le temps. vous, je suis en train d'évoquer les cas de marchés à Kinshasa. L'eau potable, les forages qui sont dans les périphéries, ils n'ont pas accès à l'eau potable, les aliments sont exposés, le fruit, on le mange sans laver, tout ça, c'est peut-être l'objet de façon permanente, comme nous avons vécu du moment de la COVID. Et toutes ces mesures pouvaient nous aider à anticiper des affaires, parce que nous avons déjà une habitude. Il fallait être question de réveiller ces mesures préventives. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a une légèreté dans la gouvernance d'une question qui peut nous décimer tous, alors que c'était possible pour nous de nous investir massivement dans l'eau et l'assainissement et nos milieux où nous vivons. Et on pouvait déjà éviter cette situation sans problème. Et on voit venir les dangers, mais on observe. Moi, je me pose toujours la question, fallait-il attendre que le chef de l'État puisse reprendre cette question et quel est le rôle du ministère de la Santé et tout ce qu'ils ont comme service.
Vous avez suivi, en fait, vous êtes de la société civile, vous avez suivi ce que le docteur Didier Gassigua a dit, qu'il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, des sensibilisations. Les plans existaient, mais les moyens n'ont pas suivi. Et vous pensez que même s'il y avait eu sensibilisation, même si les populations avaient été renseignées sur les dangers, n'est-ce pas, auxquels elles étaient exposées, vous pensez que ces populations se seraient conformées aux recommandations, n'est-ce pas, du ministère ou des relais de la société civile que vous êtes, à partir du moment où c'est une population qui vit dans la précarité, hein, quand les gens vivent dans la précarité, c'est la proie facile, n'est-ce pas, à toute chose, n'est-ce pas, à toutes les situations.
Mais vous savez, monsieur Guy, à qui on va maintenant incomber la faute? Parce que le plan existait, on n'a pas sensibilisé. Parce que la population peut-être ne pouvait pas facilement obéir. Mais nous avons obéi il n'y a pas longtemps avec Covid en 2020. Des mesures ont été respectées. Où il y a l'autorité de l'État, où il y a l'absence de l'autorité de l'État. C'est leur responsabilité. On n'a pas le droit de se plaindre ici qu'il n'y a pas de moyens. C'est comme un papa qui a un enfant malade qui dit « je n'ai pas les moyens, tu peux mourir ». Non, on n'a pas le droit de se plaindre. Je crois qu'on a vu venir les dangers, mais on n'a pas anticipé. Maintenant, qui va répondre à cela?
Voilà. Merci.
Nous avons un parlement qui ne peut pas interpeller. Nous avons des parlements provinciaux qui ne peuvent pas interpeller. Mais du coup, nous sommes pris maintenant pour voir comment nous allons résoudre le problème. Donc, le pouvoir central a une part de responsabilité parce qu'il a laissé venir le danger. Et là, nous sommes dedans. C'est une bonne faire maintenant, c'est contribuer pour amplifier ce que le docteur venait d'évoquer tout à l'heure, les mesures qu'il s'impose en pareille situation pour que la population puisse prendre précaution que le danger puisse au moins être stoppé quelque part.
Merci, docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique et spécialiste principal en santé à la Banque mondiale. La ville de Kinshasa vient d'être affectée, n'est-ce pas, par cette épidémie de choléra. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, monsieur Timothée. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien.
Oui, on vous attend.
Ok, merci. Je voulais d'abord, en passant très rapidement, saluer nos deux invités, mais spécialement le docteur Guideta Tigua. Il a fait une... J'apprécie énormément ce qu'il vient de dire. Alors, je reviens sur ce que j'avais expliqué la fois passée, M. Guy. Lorsque l'on parle d'une maladie, je vous parle de théorie des maladies de manière globale, c'est que les maladies sont des conséquences. Les maladies sont des subséquences, c'est la traduction des dérèglements, c'est la traduction d'une perturbation des écosystèmes. En d'autres termes, lorsque vous avez le choléra aujourd'hui, il ne faut pas s'attaquer à la conséquence, mais il faut aller en amont pour regarder les causes. Je crois que celui qui a parlé juste avant moi l'a bien expliqué. C'est qu'en fait, en RDC, premièrement, nous avons un plan d'élimination du choléra qui va de 2023 à 2027 et qui met clairement les axes sur lesquels nous devons travailler pour mettre fin à la propagation du choléra. On le sait. Et d'ailleurs, vous verrez que dans ce plan, un accent prépondérant est mis sur la prévention, n'est-ce pas, et notamment l'hygiène. Et je me rappelle ici que lorsque nous étions en 2018, lorsque nous avions changé la dénomination du ministère de la Santé, en ressortant dans la dénomination de ce ministère le mot hygiène, parce qu'on l'appelle ministère de la Santé publique, hygiène, ainsi de suite, c'est parce qu'on savait justement que l'hygiène reste un pilier important pour lutter contre certaines maladies infectieuses qui se propagent en RDC, dont le choléra. Malheureusement, on n'a pas beaucoup investi dans l'hygiène, on attend qu'il y ait des flambées pour se dire « Eh mais c'est le moment de commencer maintenant à regarder la question d'hygiène ». Je crois que nous devons nous interpeller en tant qu'experts, qu'est-ce que nous faisons en amont sur certains déterminants des maladies, dont notamment ici les cas concrets, l'hygiène. L'hygiène. Alors, deuxième point, c'est qu'il faut toujours se mettre en tête, M. Guy, que le choléra, c'est vraiment une dimension multisectorielle. Ce n'est pas la santé seule. Je crois que Dr Didier vous a parlé du rôle de l'eau, du rôle de l'assainissement. Parlons de la communication que mon prédécesseur venait de mentionner. De plus en plus, nous conseillons les États, les pays à travailler sur le modèle ONF. Ça veut dire inclure d'autres secteurs qui agissent sur les déterminants de la santé. Et dans le cas d'espèce, on sait très bien que l'accès à l'eau potable est très faible dans une ville comme la Kinshasa. Nous savons depuis trop longtemps que l'hygiène est défectueuse. Vous n'avez qu'à faire le tour de certaines communes pour regarder comment les déchets sont gérés. Et donc, les flambées de choléra aujourd'hui ne doivent pas nous étonner, parce qu'en fait, c'est une conséquence d'une gouvernance qui laisse piluler des conditions propices à la propagation d'une maladie que nous connaissons très bien. Et donc, c'est à nous de travailler dessus. Troisièmement, je voudrais qu'on mentionne ici, je crois que le docteur Didier a effleuré le point, j'aime toujours le dire, peu importe la stratégie que vous mettez en place dans un pays, parlons de la couverture santé universelle, parlons de la lutte contre le choléra, parce que de cela que nous débattons, la zone de santé reste l'unité principale. Vous allez voir que nous parlons de tout sans parler du rôle de la zone de santé. Moi, j'ai été médecin des districts il y a plus de 20 ans. Je sais comment est-ce que quand on capillarise une lutte au niveau de la zone de santé, on obtient des résultats très probants. Mais aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'on a beaucoup centralisé la lutte et on a oublié les unités opérationnelles de mise en œuvre. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de responsabiliser les bases et de responsabiliser les médecins chefs de zone. Et là, je ne vois pas vraiment le leadership principalement au niveau de la zone de santé, parce que c'est au niveau de la zone de santé qu'on fait la mise en œuvre. Alors, je termine par le quatrième point, M. Guimaté, et peut-être je reviendrai plus tard sur la question des moyens. Non, pour moi, je crois que dans le secteur de la santé, on n'a pas vraiment un problème de moyens, mais on a plutôt un problème d'allocation en termes de priorité. Je vous donne un exemple, je termine par là. Aujourd'hui, selon les comptes nationaux de la santé, la dépense en santé est de $28 par habitant par an. Si vous prenez les 120 millions d'habitants en RDC, ça veut dire que dans le système de santé, nous avons plus de $3 milliards qui circulent. Ça veut dire venant des partenaires au développement, venant du gouvernement et venant des populations. Je suis convaincu que si on a des bons mécanismes de coordination et si on prend le choléra comme une priorité de santé publique en agissant sur l'amont, je crois que ce financement peut nous aider à mettre fin à la propagation du choléra. Donc c'est une question de prioritisation, de coordination et de la gestion de ressources. Parce qu'on peut augmenter évidemment les ressources en santé, on peut mobiliser davantage comme on veut le faire, c'est une bonne chose, mais tant qu'on ne va pas mettre en priorité cette question, tant qu'on ne va pas avoir une gestion judicieuse, ben nous allons toujours commencer à demander plus de moyens, alors que le peu de moyens que nous avons, on n'arrive même pas à pouvoir travailler sur les questions critiques d'hygiène, d'accès à l'eau potable, ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire comme première analyse par rapport à votre question.
Oui, docteur Mouroudi, dans cette émission, c'était le 21 mai dernier, après qu'on ait déclaré officiellement l'épidémie de choléra à travers le pays, vous avez, n'est-ce pas, analysé le regain de cette maladie par certaines raisons, notamment l'hygiène et aussi la perception de la population par rapport à la maladie.
Exactement.
Alors, depuis lors, est-ce que vous avez constaté une évolution positive sur le terrain? C'est vrai qu'en termes d'hygiène, les choses n'ont pas évolué positivement, mais en termes de perception, est-ce que la population perçoit aujourd'hui, n'est-ce pas, les dangers que représente cette maladie?
Alors, vous savez, M. Guy Maté, ce qui est très bien en santé, c'est que vous pouvez mettre en place toutes les stratégies que vous voulez, mais vous allez les évaluer en termes d'efficacité. Je pense que quelqu'un venait d'en parler par rapport aux résultats. D'accord? Ça veut dire que si aujourd'hui nous constatons une augmentation de cas de choléra et une propagation fulminante, ça veut dire tout simplement qu'on doit réquestionner les stratégies mises en place. Pourquoi j'ai mentionné le rôle de la zone de santé? Parce qu'en fait, le premier niveau de la zone de santé, c'est la communauté. Si vous voulez engager la communauté, je crois que mon prédécesseur a parlé des quelques succès qu'on a enregistrés durant la lutte contre la propagation du coronavirus. Quand nous avions associé les communautés, nous avons insisté sur la communication pour le changement de comportement. On a commencé à constater une déplétion de nombre de cas dans certains coins du pays. C'est justement mon appel à pouvoir beaucoup impliquer les médecins chefs de zone, les équipes cadres de zone, parce que c'est là qu'il y a la population. C'est là qu'on fait la communication de proximité. C'est là justement qu'on met en place des cellules à travers les avenues, à travers les quartiers, les villages, avec les relais communautaires qui s'assurent que les mesures simples d'hygiène sont respectées. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, re-questionnons nos stratégies, parce qu'en fait, le résultat que nous voyons sur le terrain montre que les populations sont encore loin de comprendre qu'en fait, on est face à un danger. Et si on n'engage pas les populations, ben nous n'allons pas avoir des résultats escomptés, parce qu'en fait, la population reste le socle, n'est-ce pas, de toute lutte contre la maladie.
Oui, docteur Michel, on vous dit, et si les stratégies ne changent pas, vous ne pensez pas qu'il y a risque que même les provinces où la maladie est une épidémie, on risque aussi de basculer dans une pandémie?
Bien sûr que oui, c'est ça la conséquence. Ça veut dire que c'est comme une guerre qui ne trouve pas de barrières, la guerre continue. C'est comme lorsqu'on avait le coronavirus à Kinshasa. On a mis les moyens, mais on n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les autres provinces étaient touchées. Donc ce risque que vous évoquez, M. Guy Maté, est un risque patent. Mais maintenant, il faut anticiper. Je crois que c'est le mot. C'est le mot. Et pour anticiper, il faut re-questionner les stratégies mises en place. Premièrement, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de se dire « mais là, ça ne marche pas, là, ça ne marche pas ». Deuxièmement, il faudra assurer que c'est une priorité, et quand on parle de priorité, ce n'est pas seulement en termes d'argent, mais c'est aussi que chaque partie prenante, à tous les niveaux, définisse sa contribution. Quel est le rôle du bourgmestre dans cette situation? Quel est le rôle du chef de quartier, du médecin chef de zone? Quel est le rôle du ministre provincial, du chef de division de la santé? Donc chaque personne, là où elle est, elle doit dire, voilà moi ma contribution pour mettre fin à la propagation du choléra. Vous comprenez ça? Donc ça doit vraiment se mettre dans place autour des instances de gouvernance, autour des instances de coordination qui engagent tout le monde. Sinon, ben, le risque que vous évoquez sera patent et va arriver. Et donc je reviens sur ce que le docteur Didier venait de dire. Il faut agir rapidement en amont et anticiper principalement dans les provinces là où nous n'avons pas encore de cas de choléra. Et quand on parle d'anticiper, c'est mettre un focus notamment sur l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, mais surtout sur les comportements de nos populations vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette maladie.
Merci, docteur Didier Gassigua. Est-ce qu'il y a encore des provinces dans ces pays qui sont épargnées, qui ne sont pas encore affectées par cette épidémie?
Oui, monsieur Guy, pour le moment, il n'y a que 14 provinces. Enfin, il n'y a pas que. Bon, il y a 14 provinces qui sont touchées sur le 26 du pays. Et il faut quand même qu'on dise qu'il y a eu quand même quelques succès parce que le Lualaba était en épidémie, il est sorti de l'épidémie. Le Haut-Katanga est en voie de sortie de l'épidémie de choléra. Le Haut-Lomami sort aussi de l'épidémie de choléra. Et donc.
Et qu'est-ce qui a été fait dans ces provinces qui n'a pas été fait dans les provinces où la maladie continue à demeurer?
Ok, donc, au fait, comme je dis, il faut savoir ici, il y a quatre choses qu'il faut mettre en place pour éteindre le feu. Un, c'est cette sensibilisation dont j'ai parlé au départ, mais c'est un processus. Je crois que même le docteur Michel le sait, le changement de comportement, c'est un processus. C'est pas que parce qu'on parle du choléra aujourd'hui, le lendemain, les quinois changent son comportement. Donc c'est vraiment, il faut marteler, il faut passer dans les émissions comme celle-ci, il faut faire du porte-à-porte, il y a avec des relais communautaires, autour de la zone de santé, il faut vraiment expliquer à la population. Et la lutte contre le choléra, c'est une lutte, on l'a déjà dit ici, c'est une lutte multisectorielle. Okay? Donc tant que le ministère de la Santé lui-même, okay, il peut détecter les cas, les emmener vers les centres de traitement, les soigner, et les guérir, mais tant qu'il n'y a pas d'eau, okay? Tant que la population n'a pas de latrine, il y a la défécation dans l'eau, dans les rivières, nous allons tous, où est-ce qu'on jette nos immondices? C'est dans les rivières. Okay? Tant qu'il y a ces inondations qu'on a connues, qui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu finalement des mesures qui ont été prises. Donc en fait, c'est tout ça, c'est tous ces facteurs qui concourent
à entretenir,
concerté, mais plus aussi les mentalités des gens. Pourquoi quelqu'un va prendre tous les déchets et les jette dans la rue, dans les canalisations? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est ça qui est entretenu. Donc le ministère de la Santé finalement vient éteindre le feu, mais sans cette lutte multisectorielle, on ne va pas y arriver, ça c'est clair. Et donc dans les provinces dont je parle là, ça a été un processus, ça peut prendre un mois, deux mois avant qu'on éteigne le feu, mais voilà, c'est un processus avec toutes les actions de lutte qui sont connues, hein, c'est connu par tout le monde. Si c'est mis en place et ensemble et concomitamment, on va arriver au résultat.
Là, mais docteur Mouvouga a aussi parlé de la centralisation de la lutte.
Le système de santé actuellement est fait tel que, effectivement, l'unité opérationnelle, c'est la zone de santé.
Est-ce que ce n'est pas une faiblesse?
Non, justement, c'est ce que le docteur Michel disait. Il faut que la lutte se passe au niveau de...
Donc, soit décentralisée.
La première réaction, les premiers acteurs de la lutte contre le choléra, c'est vraiment les acteurs... C'est même la communauté, c'est vous et moi, M. Guimaté. Donc, vous, chez vous, là, quand vous rentrez ici, vous arrivez chez vous, dans votre quartier, c'est de proche en proche, ce sont les chefs de quartier.
Mais ce que dénonce Michel Mouhoud ici, c'est la centralisation de la lutte. C'est-à-dire qu'apparemment, les zones de santé ne sont pas suffisamment impliquées.
Ah non, nous, d'ailleurs, hier, pas plus tard que ce matin, hier, on a eu une réunion avec tous les 35 médecins chefs de zone de la ville, autour du secrétaire général, autour de l'INSP, du CUSP, avec le ministre provincial de la Santé. Tout le monde a été impliqué pour sensibiliser les provinces en disant « la lutte, c'est vous ». Mais c'est vrai que la perception peut être que tout est centralisé, on attend que, voilà... Le gouvernement donne l'argent, le gouvernement fasse ceci. Non.
C'est justement ça.
Hier, c'était ça le message qu'on disait. C'est ça, les acteurs du système de santé.
Et les moyens commencent à venir.
C'est en train d'expliquer que non.
Les moyens commencent à venir.
Oui, bien sûr, parce que ça doit venir. Le peu de moyens qu'on a, il faut déjà qu'on fasse quelque chose. Et il y a quelque chose qui est fait dans la ville de Kinshasa. Honnêtement, il y a même des zones de santé qui, au début de l'épidémie, avait plus de cas. Aujourd'hui, quand vous voyez la courbe de Goss, elle est descendante actuellement. Donc, je peux citer la zone de santé de Kokolo. C'est vrai qu'elle reçoit encore les malades des autres zones de santé, mais au jour d'aujourd'hui, la zone de santé de Kokolo commence et dans la courbe descendante. Je peux citer aussi la zone de santé délimitée, si vous connaissez le quartier Pakadjouma, et avec la promiscuité, avec la densité de la population, avec tout ce que vous savez qui sont des biotopes, mais malgré ça, il y a cette sensibilisation, cette recherche des cas, cette désinfection. Donc il y a vraiment des choses qui sont faites, mais pas à l'échelle telle qu'on l'aurait souhaité au jour d'aujourd'hui, M. Guimaté.
Voilà, les auditeurs sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Docteur Didier Gassigoua, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo, c'est Moussambaï.
Moussambaï Saliboko Ruben depuis Kisangani. À mon humble avis, je pense que la récente réaction du président de la République face à la flambée du choléra était tel fort que le pays ne peut plus rester passif face à cette crise sanitaire. Mais cette recrudescence n'est pas une surprise. Elle est le résultat d'une accumulation de négligences structurelles, manque d'eau potable, faiblesse du système d'assainissement, urbanisation non contrôlée et insuffisance des campagnes d'éducation sanitaire. Tant que ces problèmes de fond ne seront pas résolus, le choléra continuera à revenir comme une saison. L'activation du contingent d'urgence et les déploiements rapides des équipes médicales sont des mesures d'urgence nécessaires. Toutefois, au-delà de l'urgence, il faut penser à la prévention durable. Cela passe par des infrastructures de base, l'entretien des quartiers et une mobilisation communautaire. Car la santé publique ne se limite pas aux hôpitaux. Elle commence dans nos maisons, nos rues, nos marchés. Le choléra est une maladie qui frappe là où la société est affaiblie. Il révèle nos failles. Si les autorités, les services de santé, les leaders communautaires et la population agissent ensemble, le vrai défi, c'est d'agir pendant qu'il est encore temps.
Docteur Didier Gassibois.
Mais l'auditeur a complètement raison. Hein. C'est un peu tout ce qu'on venait de dire tout à l'heure là. La lutte doit être multisectorielle. Les populations doivent avoir accès à l'eau potable. Ils doivent avoir des mesures d'hygiène personnelle et communautaire. Donc on doit avoir les mesures d'hygiène. Et puis l'assainissement. On doit assainir autour de soi. On ne peut pas vivre tel que nous vivons au jour d'aujourd'hui, que ce soit surtout dans les grandes villes. Hein. Monsieur Guimaté, je dois dire que le choléra actuellement est plus dans les grandes villes, dans les chefs-lieux de province, que même dans les milieux ruraux. Et là où c'est un milieu rural, c'est vraiment des centres de commerce, c'est des centres de négoces dans lesquels maintenant il y a beaucoup de choléra. Pourquoi? Parce qu'il y a la promiscuité, il y a cette saleté, ce manque d'assainissement, ce manque d'eau, et même dans les carrières minières, hein, parce qu'on a vu par exemple dans le sud Kivu, c'est dans les carrières minières, j'y arrive, où il y a le choléra avec des puits, où c'est tout le monde qui va, il n'y a pas de toilettes, c'est la défécation dans l'eau, et plutôt à l'air libre. Et donc c'est tout ça, tout ce qui concourt à ce que le choléra puisse expandre, c'est sur ça sur laquelle on doit mettre un accent. Donc l'auditeur, pour moi, il a raison.
Merci Jonas Tchombela. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. La recrudescence du choléra en RDC doit interpeller au plus haut point ceux qui ont la gestion de la res publique. Gérer, c'est prévoir, dit-on. En plein 21e siècle, on ne pouvait plus parler de cette épidémie en RDC au regard de moyens que le pays dispose. Plus grave encore est que la capitale du pays est touchée. Et ce niveau de vulnérabilité et du système de santé très précaire prouve que le pays fait du surplace dans presque tous les domaines de la vie nationale.
Jonas Tchombela.
Oui, je crois qu'il doit avoir raison. Il nous rejoint comme celui qui a appelé à Kisangani, comme celui qui vient d'appeler à Kolwezi. Cette lutte, ça montre déjà que c'est un échec du système sanitaire, l'absence de l'autorité, que ces maladies nous reviennent tout le temps. Ça devait déjà nous servir de leçon. Et que nous devions déjà avoir des cadres, comme l'a dit les experts en santé qui sont avec nous. Je pense que cette lutte ne doit pas seulement être multisectorielle, comme ils le disent, elle doit aussi être multi-acteur. Il doit impliquer et le secteur, et le domaine, et les acteurs en présence, parce que c'est une maladie de pauvres en réalité. C'est une maladie de pauvres, ceux qui sont à côté des puits qui sont à ciel ouvert et qui prennent l'eau de forage et qui y a des égouts par-ci par-là. Donc je pense que l'auditeur a raison, mais il appartient maintenant à l'État congolais au niveau central. C'est comme l'a dit un des intervenants, non seulement qu'on doit associer les médecins de santé, même les divisions de santé, ça doit être élargi cette lutte pour qu'on n'en arrive pas à cette situation et que ça devienne notre mode de vie. Le ministère n'est pas le ministère de la santé seulement, il est le ministère aussi de l'hygiène. Mais quand vous allez dans nos communes, les services d'hygiène devaient exister. On doit réhabiliter les brigades d'hygiène qui doivent surveiller les parcelles, les toilettes, ce qui nous expose à des dangers. Nous sommes dans une ville marécageuse où l'eau, il y a des inondations tout le temps et nous sommes exposés à ce type de maladies. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut travailler plus sur la prévention que si ce qui nous arrive actuellement, parce que là nous sommes pris de court, il nous faut beaucoup d'argent, ce qui pose le problème, comment mobiliser cet argent, enfin la maladie est déjà avec nous, et si on avait prévenu, on limiterait le dégât. Donc le compatriote a totalement raison de parler de cette manière-là. Donc la lutte doit être multisectorielle, mais aussi multi-acteurs, on doit associer les divisions, comme on doit associer les zones de santé, et qui sont au contact direct avec les communautés. Et les communautés doivent prendre la place prépondérante dans cette lutte et doit être sensibilisé suffisamment dans nos langues locales. Les émissions en ce moment-ci, on ne peut pas avoir d'émissions de danse. C'est pourquoi nous saluons d'ailleurs la radio Capi qui aujourd'hui se promène sur cette question. Et si tous les médias pouvaient se mettre sur cette question, peut-être que la population serait averti et n'aurait un comportement. Parce qu'on a déjà adopté ce comportement avec le coronavirus.
Merci, docteur Michel Mouhoudi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur, un autre auditeur qui appelle depuis la ville de Kisangani, c'est Albert.
Albert Kolembela, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'épidémie de choléra vient d'allonger la liste des nombres de décès que la RDC a connus ces dernières années. La recrudescence de choléra est justifiée par le faible niveau d'hygiène ainsi que le manque de sensibilisation. Cette situation doit interpeller la conscience des dirigeants car gouverner c'est prévoir. Au XXIe siècle, dans d'autres pays, on ne parle plus de paludisme, méningite et choléra. Les systèmes sanitaires de notre pays demeurent précaires et cela nécessite les moyens conséquents pour éradiquer cette pandémie qui constitue un danger public. Si Kinshasa, siège de toutes les institutions, est touché, a fortiori les provinces et les villages. À mon avis, les autorités doivent prendre les dispositions utiles pour toute la République. Sinon, la situation sanitaire sera encore plus grave.
Docteur Michel Mouhoudi.
Merci Guy Maté. Non, je pense que notre ami Albert relève des valeurs fondamentales. D'abord, il souligne que la charge morbide est une vraie perte en capital humain. Nous assistons à des gens qui meurent, c'est la main d'œuvre qui est en train de partir. Mais aussi que quand on commence à soigner ces malades, on dépense plus que si on avait prévenu. Donc on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Je crois qu'il faudra éviter la maladie parce que les dépenses en santé augmentent quand on fait la prise en charge des cas que quand on fait la prévention. Deuxièmement, il est revenu sur la prévention. Je crois qu'on l'a dit, docteur Didier, et l'autre invité aussi l'a mentionné. Donc il faut toujours agir en amont. Et quand on parle de la prévention, c'est justement ce changement de comportement sur lequel il faut travailler. Mais aussi, nous connaissons les déterminants sur lesquels il faut agir pour mettre fin à la propagation du choléra, notamment l'accès à l'eau, l'hygiène, ainsi de suite. Il a martelé sur un point important, la question des moyens et des responsabilités. J'insiste encore une fois de plus, le système de santé en RDC a besoin de moyens, mais plus besoin de bien gérer les moyens qu'on a. Je vous ai montré qu'on a justement des financements qui circulent, mais c'est la manière de les gérer qui va nous permettre de mettre fin à certaines maladies prioritaires comme le choléra. Mais que la question de la responsabilité, c'est pas que les dirigeants. Nous devons comprendre dans ce pays que lorsqu'on parle d'un problème de santé publique, les responsabilités sont à tous les niveaux, y compris au niveau de la population. Évidemment, je pense que la restauration du leadership, notamment au niveau des zones de santé, va nous permettre d'accélérer, n'est-ce pas, la dépression du nombre de cas de choléra en RDC. Donc Albert a tout à fait raison et je crois qu'il faudra intégrer ses commentaires dans la révisitation de toutes les stratégies qui sont mises en place actuellement.
Voilà, nous tenons vers la fin de l'émission. Que faut-il pour combattre efficacement cette épidémie de choléra en RDC? Docteur Didier Gassigua, vous êtes directeur adjoint du programme d'élimination du choléra et autres maladies diarrhiques. Vous êtes également incident manager pour les choléras. Vous avez dit que la lutte doit être multisectorielle. Vous êtes revenu sur ça plusieurs fois, n'est-ce pas? On sait qu'à cet effet, l'impulsion doit venir d'en haut. L'impulsion doit venir du sommet. Et maintenant que le chef de l'État lui-même s'implique, est-ce qu'on peut espérer que les choses pourraient, dans un mois, trois mois, quatre mois, les choses pourraient changer sur le terrain?
C'est ça notre combat. C'est pour ça qu'on nous a mis en place. Donc on a mis en place le système de gestion de l'incident pour cela, pour que dans un délai très court, non seulement qu'on arrive à une létalité qui est zéro, surtout dans les zones épidémiques, parce que dans les zones épidémiques, on ne doit pas avoir des décès dus au choléra. Donc, il faut qu'on arrive à vraiment une létalité qui avoisine le zéro à cause du choléra, mais il faut aussi qu'on éteigne le feu. Donc, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à parler du choléra. Tout le monde l'a dit ici. Donc, notre mission, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on ne parle plus du choléra à Kinshasa. Ça a été fait en 2017. Les acteurs sont toujours là, ils sont vivants. D'ailleurs, on nous appuie là-dessus. Et ça devrait être fait encore, même dans toutes les provinces à potentiel épidémique. Et donc, à Kinshasa, qu'est-ce qui a été fait? Des zones là où il n'y avait pas d'eau, on a mis de l'eau. Il y a eu vraiment de l'armée des hygiénistes qui passaient. On a désinfecté, on a curé les rivières. Et voilà, il y a eu cette sensibilisation. Et donc, on peut éteindre les feux, je pense, en mettant tout en place. C'est vrai que parfois, pour curer les rivières, pour amener de l'eau, on doit se surpasser, on doit aller au-delà de ce qui est fait actuellement. Parce que vous allez voir que des quartiers comme le Pagadjouma, comme l'air de santé 1 ou 2 de Kokolo, si vous y allez, M. Guimaté, les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de latrine. Il y a cette promiscuité, les gens vivent vraiment pratiquement dans l'eau. Et ça, c'est très important. Donc je pense qu'on va y arriver.
J'en suis
convaincu.
Merci. Jonas Tumbela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, vous avez dit que la lutte doit être non seulement multisectorielle, mais aussi multi-acteur. Est-ce qu'il y a une sorte de passerelle entre vous qui êtes à la base et les sommets? Est-ce qu'il y a une sorte de courroie de transmission entre vous, la base et le sommet, pour que les sommets soient au courant des difficultés que vous rencontrez, afin que les sommets puissent prendre des dispositions et prendre des mesures pour vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir vous impliquer de façon active dans la lutte contre cette maladie?
Oui, d'ailleurs, la plupart de certaines informations que les autorités reçoivent viennent des organisations de la société civile, du secteur de la santé, qui produisent des rapports, qui sont en contact avec des zones de santé, qui sont en contact avec les relais communautaires et les communautés elles-mêmes. Et les informations, parfois, arrivent auprès des autorités par ces canaux-là. Ce qu'ils devaient faire, en principe, en termes d'amélioration de la situation, il faut doter des zones de santé urbaines, du moins celles de Kinshasa, d'un budget autonome, par exemple. Et créer un fonds d'urgence sanitaire permanent. On ne doit pas toujours tout le temps mobiliser, mais on peut avoir un fonds sanitaire permanent qu'on peut mettre en place. Je crois que le docteur peut capter toutes ces informations. Et investir massivement dans l'eau et l'assainissement. Des campagnes doivent être lancées dans des parcelles, sur les questions d'assainissement, sur les questions d'hygiène, à travers la ville. On doit restaurer la brigade d'hygiène dans des communes. Ça existait à l'époque de nos parents. On doit réhabiliter ces brigades d'hygiène et ça pourrait nous aider à parfois casser ces maladies avec beaucoup d'aisance et moins de fonds si jamais il y a une forte sensibilisation. On devra impliquer, déployer une vaste campagne d'éducation sanitaire dans les écoles, dans les églises, dans les marchés, dans les médias. Et de cette manière-là, comme on l'a dit, c'est multisectoriel et multi-acteurs. Ensemble, dans un plan, nous pouvons arriver à éradiquer cette maladie qui nous guette. Et le docteur venait de dire tout à l'heure, quand il y a une personne que nous perdons, c'est une unité de plus pour le développement du Congo que nous perdons, c'est une énergie de plus que nous perdons, c'est une intelligence de plus que nous perdons, parce que nous avons failli de prévenir le danger qui se pointait devant nous. Voilà ce que je peux dire. Donc, je pense que le travail doit être multi-acteur pour qu'ensemble nous puissions arriver à éradiquer cette maladie sur notre sol.
Merci, docteur Michel Mvoudi. Vous êtes expert en santé publique et spécialiste principal en santé à la Banque mondiale. Vous avez insisté sur deux concepts, prévention et hygiène. Quelles sont les recommandations que vous feriez, n'est-ce pas, au gouvernement pour que cette prévention s'efface de manière durable et que l'hygiène soit permanente?
Alors, je pense qu'il y a trois recommandations majeures de mon côté. Première recommandation, je vais relayer ce que mes deux prédécesseurs ont mentionné. Je dis, Maté, il faut mettre dans ce pays, et principalement dans la ville de Kinshasa, un programme sérieux. J'ai dit, il y a un programme sérieux d'hygiène. Ça veut dire, en d'autres termes, lorsque vous ne respectez pas les mesures d'hygiène dans votre maison, dans votre parcelle, dans votre quartier, on vous sanctionne. Vous savez, à l'époque, nous n'avions pas de telle situation parce que l'hygiène était une règle de vie. Ok ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, justement, on a relâché ces mesures. Pour moi, il faut des programmes drastiques, bien soutenus, mais où la sanction est à l'heure. Ça veut dire, vous ne travaillez pas en fonction de cela.
vous êtes sanctionné, vous payez des amendes. Et la sanction montre qu'on peut arriver à améliorer un certain nombre de facteurs. Deuxième élément, il faut absolument que les districts sanitaires, ici les zones de santé, soient responsabilisés. Je reviens sur le fait que ce n'est pas appeler les médecins chefs de zone, leur dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on connaît le rôle de la zone. J'ai aimé ce que mon prédécesseur a dit. Donnons le plus de moyens aux médecins chefs de zone, parce que c'est des médecins de santé publique qui ont de l'expertise. Mettons des cadres de redevabilité pour évaluer leur rôle par rapport aux changements qui s'opèrent à la base. Parce que quand on parle d'une province touchée, c'est l'addition des zones de santé touchées. Et si on a moins de zones de santé touchées, la moyenne fera qu'on puisse avoir une province moins touchée, ainsi de suite. Je crois que qu'on décentralise davantage les actions, y compris les moyens. Parce qu'en décentralisant, on permet aussi à ce qu'on mobilise les financements communautaires pour pouvoir améliorer la réponse. Et troisièmement, je crois que nous savons maintenant quels sont les déterminants sur lesquels il faut agir. C'est vrai, je crois que les prédécesseurs l'ont dit, beaucoup de déterminants sont hors du secteur de la santé. Mais il faut créer ce dialogue. Il faut qu'il y ait justement des plateformes qui fonctionnent. J'ai dit bien des plateformes qui fonctionnent, pas qui existent sur un papier, où les différents secteurs se retrouvent pour faire le point et s'assurer que chaque secteur joue sa partition en ce qui concerne cette situation qui demande une réponse multisectorielle. Et ça, c'est très important. On sait qu'il existe des cadres de concertation, de dialogue multisectoriel. Mais en réalité, quand vous regardez, c'est des réunions qui sont tenues pour faire des constats. Mais je crois qu'on devra passer sur l'action, c'est de dire, ok, ceux qui travaillent sur la desserte à nous, aujourd'hui, quelle est la situation à Kinshasa? Quel est le gap? Et comment peut-on utiliser les ressources disponibles pour avancer? Nous ne devons pas seulement attendre que le sommet le fasse, attendre que le chef de l'État le dise, que le chef de l'État le fasse. Je crois qu'à tous les niveaux, chacun de nous, nous avons une responsabilité. Quand la responsabilité est bien partagée et qu'elle est collective, mais les victoires sont multiples, nous pouvons arriver à une dépression de la situation catastrophique actuelle.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Docteur Didier Gassigua, merci d'être venu, n'est-ce pas, dans ces studios. Jonas Tchombela et docteur Michel Mouhoudi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Benjamin Boudoumbi qui a réalisé cette émission et à Jean-Claude Nsiala et Pierre Diassinois qui étaient à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon suite de programme sur Radio Capitale.